Farid Alilat, bonjour.
Bonjour.
Dans votre livre qui fourmille de révélations et de confidences, on apprend que le ministre des Affaires étrangères Bouteflika a joué un rôle clé dans l'arrestation de Ben Bella et l'arrivée au pouvoir de Boumediene. C'était en juin 65, alors que Bouteflika n'était pas un militaire, c'était juste un civil.
Oui, c'est un civil, mais il était ministre des Affaires étrangères depuis 1963. Et donc, Bouteflika a été le catalyseur du coup d'État. Parce que le président Ben Bella a décidé de limoger Bouteflika. Et aussitôt, Bouteflika rencontre Boumediene, qui était ministre de la Défense numéro 2 du régime. Et c'est à partir de la décision de Ben Bella de limoger Bouteflika qu'a commencé la véritable histoire du coup d'État de 1965.
Et on voit que le stratège du coup d'État, c'est bien sûr Boumediene, mais c'est aussi Bouteflika.
Parce qu'à l'époque, ils fonctionnaient comme un clan. Ils étaient 5 ou 6. Ils se voyaient presque tous les soirs jusqu'à l'aube. Et les conseils de Bouteflika étaient très écoutés. Donc, il a joué un rôle majeur dans ce coup d'État.
Pour empêcher, dites-vous, un coup d'État en plein match de foot.
Oui, quelqu'un avait suggéré que le président Ben Bella soit arrêté le 17 juin à Oran pendant le match Algérie-Brésil, match où Pelé était présent. Et donc Bouteflika a dissuadé, il a écarté cette idée en expliquant qu'il serait catastrophique pour les conjurés d'arrêter le président pendant le match ou après le match, alors que des milliers de spectateurs sont présents dans le stade, alors que la presse est là. Donc, ils ont décidé d'opérer le coup d'État le 19 juin.
Deux jours plus tard. En décembre 1978, à la mort de Boumediene, Bouteflika croit que son heure est venue, mais les militaires font barrage. Or, 20 ans plus tard, ce sont les mêmes militaires qui l'appellent au pouvoir. Et vous racontez que ce jour de la présidentielle d'avril 1999, Bouteflika menace de repartir en Suisse si on ne lui donne pas un score supérieur à celui de Zeroual, 4 ans plus tôt.
Oui, enfin, le jour de gloire arrive en 1999. Les militaires le désignent comme le successeur du président Zeroual qui a démissionné. Et le jour de son élection, c'est-à-dire avril 1999, il menace de quitter le pays. Il a même fait une déclaration à France 2, le jour du vote, où il dit « Si je n'ai pas un soutien franc et massif de la part des Algériens, je considère qu'ils sont heureux dans leur médiocrité. »
C'est-à-dire qu'en fait, il demande aux militaires de lui fabriquer un bon score.
Oui, parce que c'est pas une élection, c'est une élection fraudée, quoi.
Et alors, si Bouteflika engage des bras de fer comme ça avec les militaires, c'est qu'il est assez fort pour leur faire face, parce qu'il sait que les militaires ont besoin de lui, non ?
Alors, moi, je récuse cette idée que Bouteflika a gouverné contre les militaires. C'est pas vrai. Bouteflika a gouverné avec le consentement des militaires, avec le soutien des militaires. En 2004, ce sont les militaires, notamment les services secrets, qui lui ont permis de faire un deuxième mandat. En 2008, ce sont les militaires qui lui ont donné l'onction pour changer la constitution qui limitait les mandats à 2 et pour faire un troisième mandat en 2009. En 2014, les militaires l'ont soutenu pour faire un quatrième mandat. Et en 2019, les militaires Gates, chef d'état-major et vice-ministre de la Défense, appelaient le chef de l'État pour faire un cinquième mandat. Donc, le compagnonnage entre Bouteflika et les militaires, il lui a permis de rester 20 ans au pouvoir.
Alors, c'est vrai qu'il a été soutenu par les militaires, mais n'a-t-il pas réussi à être un président à 100% et non pas un président aux trois quarts comme il le craignait ?
De lui-même, si vous voulez, Bouteflika a dit « je ne veux pas être un trois quarts de président », mais il est devenu de lui-même un quart de président. Avec l'ulcère hémorragique de 2005, il s'est petit à petit effacé du pouvoir en cédant ce pouvoir à son frère Saïd. Ensuite, à partir de 2013, avec son AVC, il était presque totalement effacé. C'était un président fantôme.
Vous dites qu'en 1999, quand il arrive au pouvoir, Abdelaziz Bouteflika a tout pour réussir et que finalement il va tout rater.
Il a gouverné avec la corruption. Il a fait de la corruption un instrument de gouvernance, de soumission. La preuve, dans l'histoire contemporaine du monde, je n'ai jamais vu 2 anciens premiers ministres et 24 ministres dans une même prison en même temps. Tout récemment, l'ancien patron de la gendarmerie nationale, celui-là-même qui est censé combattre la corruption, a été jugé et condamné pour 20 ans de prison. Lui, ses 4 enfants et sa femme, il détenait 135 comptes bancaires, 61 biens immobiliers et 25 entreprises.
Mais tout de même, Farid Alilat, avec sa loi de grâce amnistiante de juillet 1999, est-ce que Bouteflika n'a quand même pas réussi à mettre fin à la guerre civile meurtrière avec les islamistes?
Là encore, il faut relativiser les choses. Quand il arrive en 1999, le terrorisme était à une échelle résiduelle. J'étais en Algérie en 1999, j'étais journaliste responsable d'une rédaction en Algérie dans les années 90. 99, nous ne sommes plus dans la période des grands massacres, des tueries quotidiennes. Donc le pays était déjà sur le chemin de la paix.
Un an après la chute de Bouteflika, est-ce que son régime perdure ou est-ce qu'il y a un vrai changement?
Le régime, le système, le régime que Bouteflika a bâti pendant 20 ans, il est presque en état d'extinction. Maintenant, on dira que l'actuel président est un ancien premier ministre de Bouteflika, est un ministre de Bouteflika. Donc il n'y a pas une rupture totale et radicale par rapport à l'ancien système de Bouteflika. Il y a dans le gouvernement actuel des ministres qui ont été ministres sous Bouteflika. On ne sort pas indemne de 20 ans de Bouteflika. Il faut du temps. D'abord, il faut du temps pour changer les mentalités, pour relancer l'économie, pour remettre de la morale dans la politique. Ça, ça prendra beaucoup de temps.
Dimanche dernier, en pleine épidémie du coronavirus, notre confrère algérien Khaled Drareni, qui est le correspondant à Alger de TV5 Monde et de Reporters sans frontières, a été incarcéré pour incitation à attroupement non armé. Est-ce à dire que 100 jours après son arrivée au pouvoir, Abdelmajid Tebboune bascule dans la répression?
Il n'est pas le seul journaliste, ils sont 4 journalistes, à être en prison. Je constate que le ministre de la Justice a déclaré récemment que les journalistes ne sont pas poursuivis pour des faits liés à l'exercice de leur fonction. Or, je constate que Khaled Drareni est en prison parce qu'on lui reproche d'avoir couvert des manifestations. C'est une incarcération scandaleuse, arbitraire. La place d'un journaliste n'est pas en prison. Voilà.
Et est-ce mauvais signe pour la suite du régime Tebboune?
Oui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont été libérées ou qui ont purgé leur peine, mais il y a d'autres personnes qui ont été incarcérées depuis. Il y a des motifs d'inquiétude pour l'exercice du journalisme en Algérie.
Et est-ce à dire que malgré la mort du général Gaïd Salah, les militaires ont repris le pouvoir en Algérie?
Je ne peux pas dire que les militaires ont repris le pouvoir. Ce que moi je dis, c'est que je constate qu'il y a un changement de méthode entre l'ancien général Gaïd Salah, qui était omniprésent, qui était puissant, qui était intrusif, qui était impitoyable, et le chef d'état-major par intérim, qui est presque totalement effacé, quoi. Donc il y a deux styles de méthode. Il faut du temps pour voir de quelle patte est faite le chef d'état-major par intérim. Ce que je constate, c'est qu'il y a une sorte de dysfonctionnement, de dissension au sommet de l'État, dans la mesure où, d'un côté, vous avez un président qui dit « moi, je vais satisfaire les revendications de la rue et je vais prendre des mesures d'apaisement, etc. » D'un autre côté, on voit, par exemple, un durcissement de la justice envers certains cas, par exemple, notamment le cas de l'opposant Karim Tabou.
Donc aujourd'hui, on est dans un régime qui n'a pas encore trouvé son équilibre.
On est dans un régime qui tâtonne, qui se cherche, non seulement il est confronté à l'épidémie du coronavirus, mais surtout, il est confronté à la chute des coûts du pétrole. Le pétrole, avec le gaz, qui constitue 95% des revenus en devise du pays.
Farid Alilat, merci.